sortir. Charlie a introduit le culte par le message de Noël, la venue de Jésus-Christ en tant qu'enfant. Et cet après-midi, nous aurons encore la fête de Noël avec les enfants de l'école dimanche, les groupes de jeunes, les collégiens qui vont participer à cette fête de Noël. Mais ce matin, je ne vais pas faire un message sur un texte de Noël. Mais on va quand même parler du héros de Noël, de Jésus-Christ, ce matin. Mais avant d'aller au texte, je voudrais juste vous passer une petite vidéo, si ça marche. Sinon, on fera 100. On va essayer une courte vidéo. Super, ça devrait marcher. Je vous laisse attentif, ça dure 40 secondes, 30 secondes, 40 secondes. Qu'avez-vous vu ? Un enfant ? Bon, au-delà de la symbolique, qu'avez-vous vu ? Il y en a qui voient. C'est comme les taches noires. Il y a beaucoup de gens qui. Non, il n'y a pas de symbolisme là. Qu'avez-vous vu ? Un ballon. Qu'est-ce qui arrive à ce ballon ? Il éclate. Qu'est-ce qu'il y a dans le ballon ? De l'eau. Comment, quelle technique a été utilisée pour qu'on puisse voir cela de cette manière-là ? Une ? Oui, caméra. Un ralenti. On a ralenti l'image. Une caméra qui permet de ralentir l'image, de voir vraiment un phénomène assez extraordinaire qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et ce matin, ben justement, nous allons ralentir notre rythme dans notre marche avec Jésus à travers l'évangile de Marc. Pourquoi ? Parce que nous allons entrer dans le chapitre 11 de l'évangile de Marc. Et avec le chapitre 11, nous entrons dans l'ultime phase de la vie de Jésus-Christ, cette terre, tout au début de la semaine de la Passion. Marc ralentit son rythme dans son évangile. Il a passé sous silence 30 ans de la vie de Jésus. Il a consacré 10 chapitres à évoquer les 3 ans de ministère de Jésus. Et là, Marc met le frein à main. Il va consacrer 6 chapitres pour une seule semaine. Mais quelle semaine ? La dernière semaine de Jésus sur cette terre, avant sa mort sur la croix et sa résurrection. Et dans le texte que nous allons lire ce matin, en Marc 11, ce texte évoque les 3 premiers jours de cette semaine décisive, du dimanche au mardi, sachant que Jésus va être arrêté, condamné et crucifié le vendredi, à peine quelques jours plus tard. Nous prenons le texte donc dans Marc 11, verset 1, vous pouvez suivre dans vos Bibles ou ici sur le PowerPoint. Alors qu'ils approchaient de Jérusalem, à la hauteur de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin et il le renverra très bientôt. » Ils partirent donc, trouvèrent un ânon attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et le détachèrent. Quelques personnes qui se trouvaient là leur dirent « Holà, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet ânon ?» Ils y répondirent comme Jésus leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'ânon à Jésus, et posèrent un manteau sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leur manteau sur le chemin, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule de la tête à la fin du cortège criait « Hosanna, béni soit celui qui vient de la part du Seigneur, béni soit le royaume qui vient, le royaume de David, notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. » Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Voilà pour le dimanche. Pour la 5e fois depuis le début de son ministère, Jésus se rend à Jérusalem, la ville sainte. Mais cette entrée de Jésus est toute particulière. D'abord, parce que c'est la dernière fois que Jésus entre à Jérusalem. Marc nous explique que Jésus arrive depuis le mont des Oliviers, au verset 1. Et ce n'est pas anodin. C'est justement le mont des Oliviers, 5 jours plus tard, que Jésus va être arrêté. Ensuite, cette entrée est particulière parce que Jésus la prépare de manière minutieuse. C'est assez étonnant. Pour son entrée dans Jérusalem, Jésus veut monter sur un ânon que personne n'a jamais monté. Pourquoi donc ? Pour plusieurs raisons, il me semble. Tu peux avancer ? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour accomplir la prophétie de Zacharie 9, verset 9. Tu peux avancer, Eric, si tu veux. Qui datant de plus de 500 ans, tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Autre raison, pour signifier la paix. Quand un roi rentrait dans une ville sur un cheval, la symbolique était guerrière d'abord, avant tout. D'ailleurs, il nous est dit dans l'Apocalypse que quand Christ reviendra de manière symbolique, il montera un cheval blanc, une épée à la main, et ce sera un temps de jugement à ce moment-là. Mais là, c'est un roi qui rentre dans cette ville en paix. Il monte un âne, symbole de paix. Et troisième raison, c'est aussi peut-être pour manifester sa souveraineté que Jésus entre avec un ânon. Si vous voulez entrer dignement dans une ville, et notamment dans une ville au Liès, vous ne prenez pas un ânon, et surtout pas un ânon qui n'a jamais été testé, qui n'a jamais été monté. C'est prendre un gros risque, le risque du ridicule. Un animal obtus, plein de vie, à cause de sa jeunesse, pourrait être d'un immense embarras pour celui qui le monte. Et le conseil que vous donnerez tout dresseur, c'est de prendre un animal que vous connaissez, dont vous connaissez les habitudes, les réactions. Mais là, Jésus veut un ânon qui n'a jamais été monté pour démontrer sa souveraineté. Et au-delà de sa capacité à monter un ânon qui n'a jamais été monté, la souveraineté de Jésus sur ces événements est mise en avant d'une manière toute particulière. Jésus explique à ses deux disciples, dans les moindres détails, ce qu'ils doivent faire pour trouver cet ânon. Verset 2, « Allez dans le village. Dès que vous y serez rentrés, vous trouverez un ânon attaché. Détachez-le, amenez-le-moi. Quelqu'un vous dira ce qu'il ne veut pas qu'on le prenne. Dites-lui ça. » Il leur dit dans les moindres détails tout ce qui va se passer. Il leur explique ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils doivent dire. Et les disciples ne posent pas de questions. Ils obéissent et tout se passe exactement, à la virgule près, comme Jésus le leur a dit. Et en démontrant sa prescience, sa capacité à savoir ce qui allait se passer dans ce passage, Jésus veut nous convaincre d'un point essentiel. C'est qu'il sait très très bien ce qui va arriver cette semaine. Il sait très bien que c'est la dernière semaine de sa vie terrestre. Il sait exactement tout ce qui va se passer dans les heures et les jours qui vont suivre. À aucun moment, Jésus n'a été pris au dépourvu. À aucun moment, Jésus n'a été victime des événements. C'est tout le contraire. Il maîtrise parfaitement son avenir. C'est lui qui donne le tempo et personne d'autre. Et cela doit nous remplir de reconnaissance déjà. Car bien que Jésus savait très bien ce qui allait lui arriver à Jérusalem, il y est quand même allé. Il est quand même venu jusqu'à Jérusalem. Alors qu'il sait ce qui va lui arriver. Une fois monté sur cet ânon, Jésus peut enfin faire une entrée triomphante dans Jérusalem, devant la foule en délire. Des gens posent leurs vêtements à terre, sur le chemin parcouru par Jésus. D'autres mettent des branches au sol, on voit ça au verset 8. Et c'est un témoignage de respect. C'est même un hommage royal envers Jésus. Car la foule espère, et on le voit dans les paroles qu'elle prononce, que Jésus vient en tant que roi, vient les délivrer de la domination romaine. La foule parle de David. Et cette manière, cette façon de mettre des branches, des vêtements devant la personne, que par exemple le roi Jéhu, le roi d'Israël, a été reconnu roi à ce moment-là. C'est un hommage royal qui est fait à Jésus. Il ne faut pas s'y tromper à ce moment-là. Tout le monde crie « Hosanna ». Est-ce que vous savez ce que veut dire « Hosanna » ? « Hosanna » signifie « sauve maintenant ». Sauve maintenant. La foule reconnaît que Jésus est le fils de David, c'est-à-dire le Messie annoncé de l'Ancien Testament. C'est une foule en délire qui loue Dieu et acclame Jésus. Jésus est l'objet de la foi de Jérusalem à cet instant même. À travers cette entrée si minutieusement préparée, Jésus démontre deux qualités. dont on a déjà, qu'on a déjà évoqué, sa majesté infinie. Il fait une entrée triomphante dans Jérusalem, en entrant solennellement à Jérusalem comme il le fait. L'intention de Jésus est très claire. Il affirme formellement qui il est. Il affirme formellement qu'il est le Messie. Jésus n'avait pas l'habitude des démonstrations publiques par rapport à sa messianité. La plupart du temps, il rejetait ce type de démonstration. Ce n'est pas ce qu'il recherchait. Mais là, c'est différent. Il l'affirme publiquement. Il sait très bien ce qui va se passer à Jérusalem. Il sait qu'il n'a plus que quelques jours sur cette terre. Et il veut, avant de partir, avant de mourir, il veut qu'au moins une fois, il soit dit au grand jour qui il est. Une fois au moins. Et Jésus démontre aussi sa totale humilité. Il entre sur le dos d'un ânon, un roi sur un âne. C'est illogique. Pour la petite histoire, le peintre officiel de Napoléon Bonaparte, Jacques-Louis David, a changé la monture de l'empereur sur un tableau de Bonaparte franchissant les Alpes au Grand Saint-Bernard. Napoléon avait franchi sur un âne, sur un tableau officiel. On retrouve Napoléon sur quoi? Je vous le donne en mille. Sur un cheval. Une majesté infinie et une humilité totale sont réunies dans la même personne. C'est ce que Charlie a partagé ce matin. Ce roi majestueux qui s'est fait tout petit. Dans notre société, ces deux notions, la gloire d'un côté et l'humilité de l'autre, sont à l'opposé l'une de l'autre, très souvent. Jésus, lui, est capable de démontrer les deux à la fois. Il est à la fois puissant, souverain sur le moindre détail, et en même temps, cet humble serviteur qui vient pour mourir. Il réunit des qualités qui sont à l'opposé l'une de l'autre. Et c'est ce qui le rend différent, différent de vous et de moi. Il a des qualités opposées que nous ne sommes pas capables d'avoir nous-mêmes. Après son entrée, Jésus se rend au temple et il observe attentivement tout ce qui s'y passe, au verset 11. Si Jésus ne dit rien, il a pourtant un regard qui en dit long. On va le voir plus tard. Quelque chose le touche au plus profond de lui-même, dans ce qu'il voit. Le dimanche se termine, Jésus quitte l'effervescence de Jérusalem pour rejoindre la tranquillité de la demeure hospitalière de ses proches amis, Marthe, Marie et Lazare à Béthanie, pour se reposer. Le dimanche se termine, on arrive au lundi. Au verset 12, on poursuit notre lecture. Verset 12. Lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin un figuier couvert de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors au figuier, il lui dit, « Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. » Et ses disciples entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem. Jésus entra dans la cour du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée, ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent, ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant, « N'est-il pas écrit, on appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples ? Mais vous, vous en faites un repaire de brigands. » Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils cherchaient un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignaient son influence car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Le lundi matin, Jésus se lève et retourne à Jérusalem. Et en chemin, un événement qui paraît tout à fait anecdotique au premier abord déclenche une réaction surprenante chez Jésus. Une réaction virulente. C'est d'ailleurs tellement virulent que ça en paraît suspect. Jésus a faim, il nous est dit au verset 12. Il n'a peut-être pas eu le temps de prendre son petit-déj le matin, toujours est-il qu'il a faim. Rien d'anormal jusque-là, Jésus était un homme comme vous et moi. Il a faim et voit un figuier rempli de feuilles. Il s'en approche pour en prendre un fruit, et là, n'y en a pas. Et Marc rajoute en plus, que c'est somme toute normal a priori, puisque Marc donc nous précise que ce n'est pas la saison des figues. Et pourtant, Jésus en fait un drame à peine croyable. On pourrait même aller jusqu'à croire qu'il fait un caprice digne d'un enfant de 4 à 5 ans. Je veux. Il n'y a pas. On pourrait même croire cela. Il est en colère et va jusqu'à maudire ce figuier qui finalement n'a rien demandé à personne. Il le condamne à ne plus jamais donner de fruits. Que plus jamais personne ne mange de fruits venant de toi. Plus jamais. Quand on connaît un peu Jésus, on ne peut qu'être étonné de cette réaction tellement vive chez lui. Et puis finalement, quelle idée a pu traverser l'esprit de Marc pour laisser un tel événement dans la parole? Le but de Marc, de son évangile, est de démontrer que Jésus est le Messie attendu, le Fils de Dieu lui-même. Quelle drôle d'idée de dévoiler un événement aussi anodin, mais qui donne une telle image de Jésus. Il faut avouer, ce passage n'est pas très flatteur, premier abord, à propos de Jésus. Et on peut se demander qu'est-ce qu'il vient faire ici. Marc aurait peut-être mieux fait de passer cet événement sous silence. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là, cet événement? Marc aurait mieux fait de ne pas en parler, non? Et pourtant, si Marc a laissé cet événement dans son évangile, c'est qu'il a sûrement quelque chose à apprendre. D'abord, il faut faire justice à Jésus. Par rapport au fait de pouvoir trouver des figues sur cet arbre, même si ce n'est pas la saison des figues. C'est vrai, la saison des figues, à proprement parler, débute en mai. Et nous sommes à ce moment-là en avril. On est d'accord, c'est à Pâques qui approche. On est en avril, donc un mois avant. Mais il faut savoir qu'en Palestine, en fait, les figuiers produisent en mars une récolte de petits bourgeons comestibles qui poussent en même temps que les feuilles. Et ces fausses figues, entre guillemets, étaient la nourriture habituelle des paysans de l'époque. Ils mangeaient ces fausses figues, ces petits bourgeons. Il était donc raisonnable pour Jésus que Jésus s'attende à trouver ces petits fruits sur un figuier qui était rempli de feuilles. Mais pour autant, ce figuier, lui, n'a aucun fruit, comme le laissait pourtant entendre le fait qu'il avait beaucoup de feuilles. Autre point important par rapport à cet événement qui semblait anecdotique au premier abord. Je crois que Jésus essaie ici de nous communiquer une leçon de chose, un acte symbolique. Tout d'abord, lorsqu'on voit l'acte de préscience dont Jésus a été capable la veille, où il explique à ses disciples dans le moindre détail ce qu'il fallait faire pour trouver l'anon, on peut imaginer facilement que Jésus n'avait pas besoin de se déplacer jusqu'au figuier pour se rendre compte qu'il n'y avait pas de fruits. Il n'avait pas besoin de marcher jusqu'à cet arbre, pour le savoir. Deuxièmement, un autre détail très important dans ce qu'il est rapporté. Lorsqu'il a maudit ce figuier, Jésus a voulu que tous ses disciples l'entendent bien. Il n'a pas maudit ce figuier dans sa barbe, sur un mouvement de colère, pour garder une certaine image. Non. Jésus voulait que ses disciples l'entendent. Jésus voulait que ses disciples se souviennent de ce qu'il venait de faire. Et on verra pourquoi mardi. En attendant de revenir vers ce figuier donc plus tard, le lendemain, Jésus poursuit son chemin. Il se rend à Jérusalem, et pas n'importe où à Jérusalem, il se rend à nouveau au temple, tout à fait. Si on avait un doute sur le jugement que portait Jésus sur le temple lorsqu'il avait observé attentivement la veille, il est vite levé, ce doute. La première fois que Jésus est rentré dans le temple, personne ne l'a vu, ne l'a remarqué. Il n'a fait qu'observer. Il était effacé. Là, c'est tout le contraire. On ne voit que lui. Il ne se contente plus d'observer. Il agit. Et quand Jésus agit, il n'y va pas de main morte. Il chasse les marchands, renverse les comptoirs de change, met dehors tous les transporteurs de marchandises. Là encore, comme avec le figuier, on peut se demander, mais qu'est-ce qui arrive à Jésus? Entre l'épisode du figuier et celui du temple, on a peut-être l'impression que le lundi, ce n'est pas le jour de Jésus, quoi. Il s'est levé du mauvais pied, Jésus. Qu'est-ce qui lui arrive? Après tout, c'est bien Jésus qui a dit, en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand on voit ce que Jésus fait au temple, on se dit qu'il y a quand même des personnes plus paisibles que lui. Mais comme pour l'épisode du figuier, il s'agit de mieux comprendre pourquoi Jésus a une telle attitude, tellement forte dans le temple, une telle furie quelque part. Il faut savoir qu'à cette époque, tous ceux qui venaient au temple pour adorer l'Éternel devaient d'abord changer leurs pièces grecques et romaines souvent, avec une effigie donc de l'empereur, des pièces qui étaient considérées comme idolâtres, et donc inacceptables dans le temple, par la monnaie officielle du temple. Et donc il y avait des bureaux de change pour changer les pièces courantes avec les pièces du temple. Mais des bureaux de change avec un taux de change assez extraordinaire, comme on n'en fait plus aujourd'hui. Un taux de change abusif, clairement. Après avoir obtenu la monnaie du temple, les gens devaient encore acheter leurs animaux pour les sacrifices, dans l'enceinte du temple même. Et ces animaux étaient souvent vendus 10 à 20 fois plus cher qu'à l'extérieur du temple. Les gens ne pouvaient pas apporter leurs propres animaux au temple, parce qu'il fallait que ces animaux soient acceptés par les prêtres pour être sacrifiés. Bref, un commerce prospère régnait dans l'enceinte du temple, une sorte de mafia locale un peu, où tout le monde, changeurs, marchands et prêtres, étaient de connivence. Fraude et extorsion étaient monnaie courante. C'est un véritable racket, au final. Une exploitation honteuse des plus faibles, de ceux qui voulaient venir adorer Dieu. C'est cela, le fait que le temple est devenu un repère de brigands, comme Jésus le dit au verset 17, qui a mis Jésus dans une telle colère. Il ne pouvait pas supporter l'idée que l'on avait détourné le temple de son premier but. Et ce premier but, c'est quoi ? Une maison de prière pour tous les peuples. Une maison de prière pour qui ? Pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et à ce propos, il faut savoir que les païens, ne pouvaient, au niveau du temple, ne pouvaient entrer que dans le parvis où se déroulait tout ce commerce nauséabond aux yeux de Jésus. C'était la seule partie du temple où les païens, où les nations, où tous les peuples pouvaient se rendre. Et tout ce commerce empêchait les nations de prier. On faisait de cet endroit un lieu consacré à un commerce cupide au lieu d'en faire le lieu consacré à la prière des nations. Suite à cet acte fort de Jésus, les prêtres ne se remettent pas en question une seule seconde, le moins du monde, mais au contraire cherchent toujours une nouvelle occasion, un nouveau moyen pour se débarrasser de Jésus, qui quitte lui à nouveau Jérusalem pour la nuit, avant de revenir le lendemain. Et donc le mardi, au verset 20, la dernière partie de notre texte pour ce matin. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent le figuier. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit. Il est devenu tout sec. » Jésus répondit, « Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure. Si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit, va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez-lui, pour que votre Père Céleste vous pardonne lui aussi vos fautes. » Et le verset 26 qui est entrecroché parce qu'il n'est pas sûr dans tous les manuscrits. « Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Le mardi matin, Jésus reprend le même chemin que la veille pour retourner vers Jérusalem. Et je pense que Jésus a une idée en tête en reprenant le même chemin que la veille. Parce qu'il passe devant le figuier. Et ses disciples ne peuvent pas manquer la situation. Le figuier est sec. Pierre le souligne, il interpelle Jésus à ce sujet. Il lui dit, « Maître, regarde le figuier que tu as maudit, il est devenu tout sec. » Et Jésus va leur donner un enseignement essentiel sur la foi, mais pour bien comprendre cet enseignement, il faut d'abord bien saisir ce qu'a voulu démontrer Jésus à travers cet acte symbolique contre ce figuier. La malédiction de ce figuier est la mise en scène d'une parabole terrible. C'est un acte symbolique qui a pour but de nous choquer. D'abord, je crois qu'à travers la malédiction du figuier, Jésus évoque le temple. Dans un premier temps, vous rappelez, Jésus est allé au temple, le cœur, le centre névralgique de l'adoration du peuple juif envers Dieu, pour y observer attentivement ce qui s'y passait. Et cela ne lui a pas plu du tout. De la même manière, Jésus a vu un figuier rempli de feuilles, mais qui ne portait aucun fruit. Aux yeux de Jésus, ce figuier est sans aucun doute une bonne représentation de ce qu'il a vu au temple. Il avait beaucoup de feuilles, ce figuier, mais aucun fruit. C'est une image du temple où il y avait beaucoup de sacrifices, beaucoup d'animaux, beaucoup de cérémonies religieuses, mais pas de véritable consécration à Dieu, pas de véritable foi. Jésus a condamné ce figuier car il ne fournissait pas ce que son apparence promettait. Et de la même manière, Jésus a condamné le temple car il ne fournissait pas ce que son apparence promettait. Il n'était plus un lieu d'adoration, mais le lieu d'un commerce déloyal et nauséabond. Jésus ne peut pas accepter que le lieu privilégié pour son adoration soit devenu un lieu bouillonnant d'activités religieuses, mais sans aucune portée spirituelle. Nos églises peuvent aussi être un lieu bouillonnant d'activités religieuses. Une réunion par-ci, un comité par-là, beaucoup de va-et-vient, du mouvement perpétuel, beaucoup de bruit. Mais toute cette activité n'est pas forcément le signe d'une réelle spiritualité. Nous pouvons faire tellement de choses, tellement d'activités qui ont l'air de véritables activités religieuses, mais qui n'ont aucune dimension spirituelle en fait. Et Jésus, à travers ce figuier, nous pose une question à notre assemblée, à chacun d'entre nous dans l'assemblée. Est-ce que notre église, notre assemblée d'hommes et de femmes qui se réunissent d'un véritable lieu de foi ou un véritable lieu de consécration à Dieu, est-ce que la foi est au centre de notre vie d'église, de notre vie d'assemblée, ou avons-nous dévié vers du simple activisme religieux? C'est une question que nous devons nous poser en assemblée. C'est une question que nous devons nous poser régulièrement. Est-ce que c'est un lieu de foi, notre église? Ou est-ce que c'est un lieu d'activité religieuse simplement? C'est une question collective. Mais Jésus, je crois aussi, nous interpelle individuellement à travers cette malédiction. Parce qu'à travers la malédiction du figuier, Jésus évoque aussi le cœur de l'homme. Jésus envoie un message particulièrement tranchant à tous ceux et toutes celles qui sont peut-être remplis de feuilles, mais qui ne portent pas de fruits. Jésus est particulièrement dur contre tous les hypocrites, ceux qui ont fait une profession de foi extérieure et font preuve d'un simple activisme religieux représenté par les feuilles du figuier. Cela n'a aucune valeur aux yeux de Jésus. Jésus se moque des feuilles. Ce qu'il veut, c'est des fruits. C'est une transformation du caractère, parce que le fruit de l'esprit, comme Paul nous le dit en Galates 5, verset 2, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Une transformation du caractère, pas une activité. Est-ce que vous manifestez le fruit de l'esprit dans vos vies? Voilà ce qu'écrit Tim Keller à ce propos. Si vous êtes anxieux ou impatient, votre entourage voit-il clairement votre progrès? Avez-vous la force de patienter lorsque Jésus tarde à répondre à vos prières? Si vous êtes colérique, avez-vous commencé à vaincre votre colère de façon tangible? Apprenez-vous à prendre sur vous le prix du pardon? Si vous avez tendance à vous dénigrer ou au contraire à vous surévaluer, vos proches remarquent-ils une amélioration radicale de votre caractère? Ou alors êtes-vous simplement occupé à des tâches religieuse. C'est dur. Il est arrivé qu'on vienne me voir et qu'on me dise, vraiment, tu es très consacré à Dieu, tu fais tellement de choses dans l'église, parce que c'est vrai que par la force des choses, en tant qu'ancien, on fait beaucoup de choses dans l'église. Mais est-ce que c'est ça, le fruit? Cette capacité, peut-être de service, cette capacité de gestion du sommeil, de temps, je l'ai. Et chacun, et nous sommes différents dans cette situation. Mais nous avons des capacités que Dieu nous a données. Mais est-ce que c'est ça le fruit? Réellement, au fond, je ne vois pas ma consécration à travers ces activités. Mais je crois qu'on peut voir les transformations du cœur que Dieu opère en nous. Et Dieu transforme ma colère, transforme mon orgueil, ma fierté petit à petit. Et j'espère que c'est votre cas aussi. Parce que c'est ça le fruit. C'est ça que Dieu recherche dans nos vies. Son fruit, une transformation du caractère pleine et entière. En bref, si l'on doit retenir une leçon de cette histoire, de cette parabole, c'est que Jésus ne veut pas de feuilles, mais des fruits. Jésus ne veut pas de belles feuilles dans nos activités chrétiennes, mais du fruit. Jésus ne veut pas de belles feuilles dans nos vies, mais du fruit. Jésus ne veut pas de belles feuilles dans nos couples, mais du fruit. Jésus ne veut pas de belles feuilles dans notre église, mais du fruit, du fruit. Une transformation de caractère, une transformation de vie. Jésus termine donc ce passage en nous délivrant un enseignement sur la foi dans la prière. Cette prière qui manquait tellement cruellement au temple. Il n'y avait pas de prière dans le temple, pas d'adoration. Et Jésus nous livre une affirmation très forte au verset 23, il dit « Vraiment, je vous assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. » Et à partir de cette affirmation, il donne cette promesse au verset 24. « Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Comment comprendre un tel enseignement? Je vous propose quatre interprétations différentes de cet enseignement. Pour certains, cette montagne, cette colline, fait référence à une capacité miraculeuse. Pour certains, il faut prendre cet enseignement au mot. Jésus nous promettrait la réalisation de miracles, d'actes extraordinaires, jusqu'à soulever des montagnes de terre, pourvu qu'on ait une foi suffisante. Cette interprétation me pose problème, pour trois raisons. D'abord, je ne sais pas vous, mais pour ma part, je n'ai jamais vu une montagne se jeter dans la mer. Et je n'ai même jamais vu quelqu'un parler à une montagne. Alors peut-être certains me répondront que c'est parce que je manque de foi, peut-être, mais quand même, ça me fait réfléchir. Deuxièmement, Jésus lui-même, alors qu'il avait tout à fait le pouvoir, lui, de jeter une montagne dans la mer, il n'y avait aucun problème pour Jésus de faire cela. Il ne l'a jamais fait. Il n'a jamais fait de miracle de ce type-là, très m'as-tu vu. Ce n'est pas comme ça que Jésus faisait. Il a toujours refusé de faire des miracles spectaculaires juste pour le miracle en lui-même. Jésus n'était pas un magicien qui fait les choses juste pour le spectacle. Ces miracles avaient un sens. Et surtout, dernière raison pour laquelle cette interprétation me dérange, surtout cela signifierait, comme l'affirment certains mouvements, comme peut-être vous en avez entendu parler, The Last Reformation, avec Torben Sondergaard à sa tête, que la clé, quelque part, pour relever tous les défis qui se présentent devant nous en tant que chrétiens, c'est simplement d'y croire. Croire et ça va t'arriver. Le vouloir assez fort pour le voir, le visualiser, agir comme si c'était déjà exaucé. Il ne s'agit pas simplement de croire que la montagne peut être transportée. Il ne s'agit pas simplement de croire que Dieu peut transporter la montagne. Bien sûr qu'il le peut. Mais Dieu n'est pas notre valet. Et croire que c'est une question simplement de volonté, quelque part, c'est faire de Dieu notre valet, d'une manière ou d'une autre. Pour qu'une prière soit exaucée, elle doit s'accorder avec la volonté de Dieu, car Dieu ne fera rien qui va à l'encontre de sa volonté propre. Pour qu'une prière se réalise, il ne suffit pas d'avoir foi en sa réalisation. Il faut aussi que notre prière soit conforme à la volonté du Seigneur. C'est pour ça que, pour ma part, il me semble clair qu'il ne faut pas prendre cet enseignement au pied de la lettre. Encore que, entre guillemets, dans un de ses livres, Alfred Kuhn évoque une église aux États-Unis qui, en 1973, venait d'achever la construction de son nouveau lieu de culte. Lorsqu'elle fut informée qu'on ne lui accorderait le droit d'occupation permanente des lieux qu'à condition d'installer un parking suffisamment grand. Vous n'avez pas pensé au parking. Le problème, c'est que la seule partie du terrain inutilisée était une colline abrupte près du bâtiment que les finances de l'église ne permettaient pas d'aplanir. Le dimanche avant l'ouverture d'un nouveau lieu de culte, le pasteur a demandé à tous ceux qui croyaient que Dieu pouvait encore déplacer des montagnes de venir ce soir-là à une réunion de prière. Sur 300 personnes qui composaient cette église, seulement 24 sont venues à la réunion. C'est partout pareil, hein. Sauf aux États-Unis ici, il n'y a jamais personne en réunion de prière, malheureusement. Après avoir prié environ 3 heures, le pasteur a déclaré qu'il ne savait pas de quelle manière, mais il croyait que Dieu allait déplacer la montagne et aplanir le terrain durant les 7 prochains jours. Pardon. Le jour suivant, un homme a frappé à la porte du pasteur. Il s'est avéré que c'était un entrepreneur du bâtiment d'une région voisine. Il était en train de bâtir un centre commercial, disait-il, et il avait besoin de remblais pour niveler l'emplacement de la construction. Est-ce que sa compagnie pourrait utiliser la colline qui se trouvait juste derrière l'église? Il a ajouté que s'il pouvait avoir la terre immédiatement, en retour, il payait le parking. Le pasteur a immédiatement accepté et leur nouveau local a pu ouvrir le dimanche suivant. La personne qui a raconté l'histoire a ajouté qu'il y avait ce dimanche-là bien plus de gens ayant une foi qui déplace les montagnes que le dimanche d'avant. Une autre façon de comprendre encore ce texte, c'est que cette montagne fait référence aux épreuves, un peu comme il est dit dans cette histoire. Une autre manière de considérer ces paroles de Jésus est de penser que cette montagne est symbolique et fait référence à toutes les épreuves que nous pouvons vivre sur terre, comme la maladie, l'échec dans son couple, sa famille, le décès d'un être cher. Chaque montagne qui se présente devant moi est une opportunité de mettre ma foi, ma confiance en Dieu à l'épreuve. Toutes les montagnes ne sont pour Dieu que des moments favorables pour que nous apprenions à nous appuyer sur lui. Plus ma foi est grande en Dieu, et moins les montagnes sont hautes devant moi, car j'ai l'assurance qu'il est avec moi. C'est une manière aussi de comprendre ce texte. Une autre manière encore, c'est de penser que cette montagne fait référence au mont des Oliviers. Lorsque Jésus évoque une montagne, plusieurs commentateurs pensent qu'il est question du mont des Oliviers, que Jésus a juste devant ses yeux à ce moment-là. Mont des Oliviers qui culmine à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. Peut-être Jésus pense-t-il à cette haute prophétie de Zacharie qui annonce que lorsque Jésus reviendra, en Zacharie 14, verset 4, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest, en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud. Peut-être que Jésus a en pensé ça. Et dernière interprétation, qui a ma faveur pour ma part, c'est que cette montagne fait référence au temple, en fait. Il me semble qu'il faut comprendre ce que Jésus dit dans le contexte dans lequel il vient de le dire. Sinon, on peut avoir des attentes erronées ou des pratiques erronées, comme on l'a vu pour la première interprétation. Le contexte qui entoure cet enseignement de Jésus est le jugement sévère que Jésus porte contre le temple, qui est justement bâti sur une colline surplombant Jérusalem. Le temple devait être un lieu d'adoration, de prière, de rapprochement du peuple vers Dieu, mais il ne remplit plus du tout son office. Et la question qui se pose aux auditeurs de Jésus, aux disciples, quand ils voient la manière dont Jésus a condamné le temple, la question qui se pose à eux, mais si le temple ne remplit plus son office, si je ne peux plus me rapprocher de Dieu à travers les sacrifices que je rends au temple, mais qu'est-ce que je vais faire pour me rapprocher de Dieu? Qu'est-ce que je vais faire? Quel avenir m'attend? À travers son enseignement, Jésus veut donner un nouvel espoir à ses disciples et à nous en même temps. Et ce nouvel espoir, c'est une foi qui demande l'impossible à Dieu et d'y croire. Quand on pense au contexte de ce passage, qu'est-ce que ça veut dire demander l'impossible à Dieu? On l'a vu avec Raph il y a 3 semaines. Lorsque les disciples demandent qui peut être sauvé, Jésus leur répond: cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. En Marc 10, verset 27. On l'a encore revu la semaine dernière avec Rolly. Lorsque Bartimée demande à Jésus l'impossible, retrouver la vue, qu'est-ce que Jésus lui répond à la fin? Va, ta foi t'a sauvé. Jésus donne la solution à ses disciples. Il leur faut une foi qui demande l'impossible, le salut de l'homme. Il n'y aura plus de temple, il n'y aura plus de sacrifice, il n'y aura plus l'ancienne alliance, parce que tout est plombé, tout est faux. Ce n'est que des activités religieuses, rien de plus. Mais Jésus est venu pour établir une nouvelle alliance, pour établir une nouvelle situation pour l'homme, un nouvel espoir pour chacun d'entre nous. Et cette alliance va être centrée sur l'objectif de la venue de Jésus sur terre, sa mort et sa résurrection. Dans 3 jours plus tard. Cette mort, cette résurrection de Christ offre à chacun l'impossible, être pardonné entièrement, être déclaré juste entièrement devant Dieu. Est-ce que chacun d'entre nous, ce matin, nous sommes habités par cette même foi? Jésus termine son enseignement en évoquant le pardon au verset 25. Le pardon va être accessible sans le temple, sans tous ces rites. Il y a une nouvelle façon d'être pardonné. Et pour que cette prière qui demande l'impossible à Dieu soit exaucée, il faut qu'elle soit faite avec foi, mais aussi avec un esprit de repentance avec le désir d'être pardonné par Dieu lui-même. Jésus cherche le fruit d'une repentance sincère, d'une foi sincère, qui demande quelque chose d'impossible à Dieu, le salut. En conclusion, au début de ce passage, la foule, en voyant Jésus entrer dans Jérusalem, a crié « Hosanna, sauve maintenant !» Jésus a démontré que le salut n'était plus possible grâce à l'ancienne alliance, parce que ce système était pourri. C'était simplement l'activité religieuse. Mais qu'il fallait une nouvelle alliance qui permettra à chacun de se tourner vers Dieu en réclamant l'impossible avec repentance, le salut de l'homme. Et ce passage nous laisse devant une question que nous devons tous nous poser. As-tu la foi de demander l'impossible à Dieu, ton salut en Christ? Est-ce que tu habitais avec cette foi? J'ai vu l'impossible se réaliser en moi, à travers des choses extraordinaires dans ma vie, dans un changement de cœur. J'ai vu l'impossible se réaliser en beaucoup parmi vous, à travers l'impossible, une activité, des changements, des fruits. Est-ce que chacun d'entre nous ce matin, nous sommes prêts à réclamer l'impossible à Dieu et à transformer nos cœurs? Que chacun puisse avoir ce temps de réflexion. Que cette question, et ma prière, c'est qu'elle vous poursuive cette question toute votre semaine. Amen.
Je vous invite à prendre une minute de temps de réflexion et de prière dans vos cœurs, justement pour considérer cet enseignement. Est-ce que le Seigneur trouve dans notre vie simplement des feuilles ou des fruits ?